allons appréhender aujourd'hui les champs d'évolution des vies qui viennent en manifestation, donc à l'existence. Répondant au postulat de l'absolu qui, un, implique l'évolution au mérite et par conséquent l'émission de vagues de vie qui vont devenir des éternels pèlerins. À partir de ces postulats, toute vie se trouve devant entamer un pèlerinage éternel. Nous entrons donc dans ce domaine, dans l'infini. L'existence implique l'infini de l'évolution. 7 systèmes solaires et par conséquent 7 grandes vies qu'on appelle des logoi solaires. Vous avez des triangles qui représentent en fait les 3 aspects de chaque vie. Et pour mieux les représenter, vous pourriez, et notamment vous le verrez sur le 4e univers, vous voyez où il y a la déclinaison en fait de la manifestation en dessous. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous voulez, sur l'un, bien pour bien repérer la vie, il faut mettre un point au centre du triangle. Vous mettez un point au centre d'un triangle pour bien repérer que la vie, en fait, est au centre et que le triangle n'est jamais que les 3 aspects de la manifestation de ces grandes vies. Alors, vous avez un déploiement de sa manifestation, mais évidemment, chaque triangle cosmique décline lui-même la même chose. Ces 7 univers sont ces 7 centres pour cette grande vie. Vous voyez qu'on est dans des dimensions vertigineuses, mais c'est le futur de l'évolution. On va prendre l'univers au central, c'est-à-dire le 4e. Vous avez donc une racine de vie qui va représenter un logos solaire. 2, 7 grandes vies, 7 logoi planétaires sont appelés. Et vous les retrouvez sur le plan bouddhique cosmique. Je reprends donc, vous avez une grande vie cosmique qui donne la vie à 7 univers. Chaque univers donne la vie et appelle à la vie en manifestation 7 vies solaires, lesquelles vont appeler en manifestation 7 vies planétaires. Alors, pour être plus précis, et concernant nos 7 planètes de schéma, eh bien, ce qu'on appelle les 7 rishis de la grande ours sont les 7 centres d'un logos solaire, c'est les 7 logoi planétaires, en ce qui concerne notre univers. L'âme d'un logos solaire se trouve sur le plan mental cosmique. De cette âme, de ce corps causal d'un logos solaire, vous avez la racine de vie de 3 hommes célestes. L'âme, c'est l'unité de conscience, le corps causal, c'est sa sphère de manifestation. En d'autres termes, une âme, c'est un lotus égoïque. Si vous voulez l'avoir plus directement, on regarde le diagramme 8, et vous avez ce lotus qui se trouve sur le plan mental, au niveau de l'être humain. Bon, il faut savoir que les corps causals de ces grandes vies sont d'une toute autre dimension que le corps causal d'un être humain.
Alors pourquoi là c'est normal, mais la racine de vie donc, qui se trouve à ce niveau-là, elle va directement dans le corps causal oui, c'est du logos solaire.
Oui, c'est son corps causal.
Alors que là, c'était planétaire.
Voilà, d'accord. Là, c'est les racines de vie. Donc, bien faire la différence. On va en rester là sur ce tableau, sur lequel on reviendra bien sûr, puisque en fait, après nous pénétrons dans le plan physique cosmique, le 7e plan, qui lui concerne plus particulièrement l'évolution des hommes, des êtres humains. Et nous allons appréhender par la constitution de l'homme, nous allons appréhender les 7 plans du système solaire. Donc nous sommes dans le 7e plan cosmique, appelé physique cosmique. Ce qu'il faut, c'est que vous saisissiez d'abord l'échelle d'évolution des vies. Et bien évidemment, pour lui, vous avez son corps éthérique et son corps dense, tel que je vous l'ai décomposé tout à l'heure. Sur le plan monadique, 2e sous-plan, vous avez les 7 univers. L'échelle n'est pas la même. En vous faisant apparaître à partir du plan mental cosmique, vous avez les 4 éthers cosmiques et les 4 parties du feu, du liquide et du, du gazeux et puis du dense cosmique, vous avez en fait le corps physique d'une très grande vie qui, elle, couvre uniquement en corps physique ces sept plans de manifestation, ce qui veut dire que l'échelle ne s'arrête jamais. Hein. Nous reprenons donc la constitution occulte de l'homme, et là nous sommes dans le septième plan. Et là, on le décompose. Donc, c'est le plan physique cosmique. Ce plan physique cosmique, ben, il est marqué en marge, n'est-ce pas? Il se décompose à nouveau en sept plans, chacun en sept sous-plans. Le premier sous-plan du plan physique cosmique en partant du haut vers le bas, c'est le plan adique ou premier éther cosmique. Deuxième sous-plan, au milieu de ce triangle équilatéral, sur le troisième sous-plan, vous mettez un point et vous avez la racine de vie de l'être humain. Sur le troisième sous-plan du plan monadique, vous avez la racine. Mais cette racine, elle va monter avec l'évolution. Elle passera sur le deuxième sous-plan quand l'être entre dans le cinquième règne. Mais notez qu'elle est sur le troisième sous-plan. Et qu'à partir de là, cette vie humaine va se projeter dans la manifestation. Donc, où est notre racine de vie dans l'absolu pour une vie au stade humain? La racine de vie est sur le deuxième sous-plan de ce plan physique cosmique. Alors, vous pouvez noter que, au même titre que vous avez les racines de vie de l'être humain, au niveau de la conscience humaine, donc d'une vie au stade humain, le champ d'investigation implique notre monde de manifestation et au-delà les ténèbres lumineuses et au-delà les ténèbres, mais à ne pas confondre avec l'aspect noir des choses, n'est-ce pas ? Simplement, c'est des horizons, à savoir que au-delà, c'est l'inconnu, et par conséquent, l'inaccessible. Ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que les vies évoluent à l'infini. Ce qui veut dire qu'il y a un commencement, une fin dans la manifestation d'une vie cosmique, mais que, pour nous, cela présente des espaces de manifestation et des cycles de manifestation incommensurables. Alors, nous allons appréhender, si vous le voulez bien, le diagramme 5, qui implique l'évolution d'un logos solaire. Et, si vous regardez le tableau, on va situer notre plan terrestre pour que vous ayez une dimension de l'échelle. Donc je vous invite à regarder en bas de la page où vous voyez physique, c'est-à-dire le plan physique. Si vous avez de bons yeux, vous allez voir qu'il y a le dense, le liquide, le gazeux et les quatre éthers. Cela constitue notre plan physique. Comment appréhender ces mondes en manifestation? Quand vous regardez votre télévision, vous voyez TF1, Antenne 2, FR3 et ainsi de suite. Ce sont des micro-mondes, des micro-fréquences. Eh bien, notre Terre est une macro-fréquence. Ce qui veut dire que, en parallèle avec notre plan terrestre, notre globe terrestre, nous avons des mondes parallèles. Pour bien comprendre, nous avons le dense, nous avons le liquide, nous avons le gazeux. Cela nous donne, si vous voulez, trois dimensions. Et nous avons les quatre éthers qui vont donner la quatrième dimension. Mais nous sommes toujours sur le plan terrestre. Quand nous passons au-delà, nous passons dans la cinquième dimension, communément appelée l'astral. Mais cette cinquième dimension recouvre au-delà, bien évidemment, du plan immédiat qu'est le plan astral. Et par conséquent, ouvre la voie au plan mental, au plan bouddhique ou christique, au plan atmique, au plan monadique, et au-dessus le plan adique. Quand nous regardons ces espaces de manifestation, donc ces globes de manifestation, parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, c'est des mondes dont la substance est bien différenciée, ce qui crée justement la différence entre ces différents mondes, ces différents globes. Notre plan terrestre est fait en fait de deux parties. La matière, on va dire, visible et la matière invisible ou éthérique. Elle n'est invisible que pour l'instant et pour la grande majorité des êtres humains. Mais elle va devenir, le quatrième éther du moins, va devenir substance visible. Ce qu'il faut appréhender, c'est l'échelle de manifestation. Quand nous prenons le plan terrestre, nous voyons en fait un monde qui est fait pour l'être humain. Mais des vies au-delà du règne humain vont se manifester dans un espace d'une autre échelle. On va appréhender tout à l'heure, plus particulièrement, si vous voulez, le plan physique cosmique. Ma démarche, c'est de vous faire partir du haut vers le bas, et non l'inverse. Alors, sur ce tableau, je vais vous demander de tirer un trait au niveau du cinquième plan, le mental cosmique. C'est pour, si vous voulez, bien distinguer le corps cosmique dense et le corps éthérique cosmique. Pourquoi je vous fais tirer un trait là? Eh bien, c'est qu'il y a des grandes vies qui ont pour ces espaces de manifestation simplement leur corps physique cosmique. Essayez de mesurer l'échelle grandiose que ça implique alors que nous, on est ici. Bon, et que on va voir où se situe toute la manifestation de l'être humain, et bien sûr des êtres célestes et des êtres cosmiques, mais c'est pour vous montrer que, en fait, c'est à l'infini. Alors, vous avez dans ce tableau ce que le mental humain le plus avancé est en limite de compréhension. Ce qui veut dire qu'au-delà, nul n'en sait la réalité. Mais par rapport au cours précédent, ne perdez pas de vue que l'absolu n'est pas concerné par ces champs, puisque nous sommes dans le monde de l'existence. En d'autres termes, tout cet infini de manifestations est issu de pensées grandioses. L'existence, le monde de la manifestation, à quelque niveau que ce soit, est issu de pensées projetées. Nous avons les vagues de vie, et puis nous avons l'espace abstrait absolu. Hein? Je vous rappelle, l'absolu, c'est l'être-té, le mouvement absolu, et l'espace abstrait absolu. Donc il n'y a aucun commencement ni fin à tout ça, et que par conséquent, la manifestation, c'est une pensée projetée. En vous rappelant que la pensée a d'abord été conçue au-delà de sa manifestation, et que cette pensée porte en elle, avant qu'elle ne soit projetée, son aboutissement. Alors, nous allons prendre donc le premier plan de ce diagramme, le plan adique cosmique. Donc par rapport à ce tableau, vous voyez qu'il est en marge, décomposé de, en chiffres romains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le septième sous-plan est le plan physique cosmique qui lui a été décomposé en 7 sous-plans. Mais les plans au-dessus, astral cosmique, mental cosmique, bouddhique cosmique et atmique cosmique, sont à décomposer en 7 sous-plans également. Pour lire autrement, depuis notre plan terrestre jusqu'au plan adique cosmique, eh bien, il y a 343 globes. 343 globes comme on peut concevoir le globe terrestre. Adique cosmique. Oui, c'est simple. Tu as 7 plans cosmiques qui chacun contiennent 7 sous-plans et chacun contenant 7 bandes. Donc ça fait 7 et 7 par 7, 49, 49 par 7, 343. Mais ça ne s'arrête pas là, hein, ce qu'on se comprend bien, c'est à l'infini. Hein. Alors en fait, on peut comparer ça aux octaves de musique. Tu as 7 grandes octaves, lesquelles après se décomposent. Si vous prenez donc le plan adique cosmique, vous avez la manifestation d'une grande vie qui donne la vie à 7 univers. Donc ayons un autre repère, le champ d'investigation d'une conscience humaine peut tendre vers cet espace où se manifeste une vie grandiose qui donne la vie à 7 univers. Mais il y a des millions d'êtres de cette évolution. L'appellation partant du fait qu'on ne va pas créer de nouvelles appellations pour séparer encore mieux, on utilise donc les appellations qui peuvent exister. En Orient, cela est appelé un para-brahman. Brahman, ça veut dire neutre, para, qui est comme. Voilà. Cette grande vie cosmique donne la vie à 7 univers. Vous avez les racines de vie des devas. Et que les monades humaines et les monades déviques constituent l'âme de l'homme céleste, sont donc dans le corps causal de l'homme céleste. L'homme céleste à ne pas confondre avec le logos planétaire. Il est et cependant il n'est pas. Ça veut dire quoi? Si je compare l'être humain est une racine de vie, une unité de conscience qu'on appelle l'âme, et une présence terrestre. L'homme céleste est une manifestation du logos planétaire. L'homme céleste est une incarnation du logos planétaire. Donc il est, mais cependant il n'est pas tout. Notons quand même bien que les racines de vie humaines et déviques constituent, sont dans son corps causal. Et vous voyez là immédiatement la relation directe entre l'être de lumière cosmique et l'homme céleste, et puis ces vies qu'on appelle humaines et déviques. Donc l'épanouissement de son corps causal va engendrer la réalisation des vies humaines et déviques. Alors dit autrement, eh bien notre monade, notre racine de vie, est l'œil du Père, donc de l'homme céleste. C'est par notre racine de vie que celui qui donne la vie à la planète voit. Et par définition, il est en chacun de nous. Dit autrement, c'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il ne voit pas. Alors reprenons le processus en question. Eh bien, cette vie arrivée au stade humain, dans l'échelle des 12 hiérarchies de vie, est la quatrième en partant du bas. Eh bien, cette vie doit remplir son contrat de vie, comme toute vie. Cette vie va donc, à l'entrée du règne humain, se créer une unité permanente de conscience. Cette racine de vie projette 1, un fil de vie, 2, un fil de conscience. Le fil de conscience, qui est l'union entre les deux pôles de la vie concernée, c'est-à-dire esprit et matière, quand elle pénètre les robes de la mer, donc les plans inférieurs vibratoires, sur le plan mental, les robes de la mer enferment le fil de vie et de conscience. Et cela crée ce lotus qu'on appelle égoïque et qui donne l'unité de conscience, l'individualité de conscience. Mais à l'entrée du règne humain, l'unité de conscience est enfermée tel un œuf. Et à partir de cette unité de conscience permanente, l'âme, eh bien la vie au stade humain va pouvoir assumer son contrat de vie, c'est-à-dire de descendre dans les vies mineures pour les élever, pour répondre au postulat de l'absolu, les vies plus avancées incluront dans leur manifestation les vies plus jeunes et auront en charge de les faire évoluer. Nous avons dans la manifestation 12 hiérarchies de vie, depuis les vies microcosmiques jusqu'aux vies divines. Bon, eh bien, ce qu'on évoque, c'est que la vie qui est arrivé au stade humain va descendre dans les plans inférieurs, donc dans ce qu'on peut appeler la matière. Il faut bien comprendre que les termes esprit et matière sont des termes de compréhension pour le mental humain. Mais en d'autres termes, ce n'est pas la réalité, puisqu'en fait, tout est fréquence vibratoire. La vie humaine, pour remplir son contrat de vie, va descendre en fait dans les plans inférieurs. Elle va rencontrer des vies mineures qu'elle va inclure dans sa manifestation et les amener à progresser. Donc l'être se trouve constitué, l'unité de conscience se trouve constituée sur le plan mental. Alors encore précision, sur le chemin de l'aller, l'unité, l'être, l'âme est sur le troisième sous-plan, et quand elle rentre dans le cinquième règne, elle monte sur le deuxième sous-plan. Donc elle change de globe. À partir de cette unité permanente, vous allez avoir la vie. Donc l'unité de conscience humaine va descendre dans les plans inférieurs et se constituer des mondes de manifestation, donc des véhicules, des corps. Ce qui veut dire que cette unité va avoir à appréhender les sous-plans du plan mental, ce qu'on appelle le mental concret, puis aura à appréhender le plan astral et le plan physique. Alors, si vous reprenez le tableau qu'on a appréhendé en premier, c'est-à-dire le diagramme 5, et qu'on regarde le septième plan, eh bien, vous voyez que sur le deuxième sous-plan, vous avez la monade humaine, que vous voyez en échelle d'évolution sur le plan monadique cosmique, c'est-à-dire qu'il y a une répétition simplement avec un niveau d'échelle inférieur, que donc la racine de vie, la monade humaine, se trouve sur le plan monadique, que son corps causal se trouve sur le plan mental, c'est-à-dire le véhicule de son âme, et que son champ d'action va être représenté par le cercle intérieur, c'est-à-dire les quatre sous-plans du plan mental, le plan astral et le plan physique. Les points constituant les atomes permanents, mais ça on va le voir sur l'autre tableau, de chaque corps. Ce qu'il faut retenir, si vous voulez, c'est l'échelle exponentielle de la manifestation. Eh bien, c'est-à-dire que pour une vie au stade humain, le champ de manifestation, il est dans le plan physique cosmique, alors qu'une vie bien plus avancée, comme une vie de la première hiérarchie créatrice, elle passe à une échelle de manifestation tout à fait différente. Alors, reprenons, si vous voulez, le document de départ, à savoir qu'une grande vie qui est arrivé à ce point d'évolution, eh bien, couvre dans sa manifestation, en fait, sept plans cosmiques. Alors que nous, on n'opère que dans six sous-plans du plan physique cosmique. Est-ce que vous voyez l'échelle variable ? Là, ça vous montre, en fait, l'échelle de l'évolution qui est à jamais à l'infini. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça signifie au niveau du temps, eh bien, la manifestation d'une vie qui est arrivée au stade de Logos solaire, une vie, c'est 311 billions d'années et 40 milliards de temps terrestre. Et au niveau échelle de temps, c'est 100 ans d'années cosmiques. Quand il a été dit, si vous voulez, dans les temps anciens, la création a duré 7 jours, oui, c'est 7 jours cosmiques, pas 7 jours terrestres. Bon, sur ce tableau ici, alors vous avez les trois aspects de la racine de vie qui vont se traduire par un aspect volonté, un aspect sagesse, un aspect activité. Et là, il faut comprendre que ce triangle concerne la racine de vie et que par conséquent, vous pouvez mettre un côté de volonté, vous pouvez mettre esprit, un côté de sagesse, vous pouvez mettre conscience ou âme, et à côté d'activité, vous pouvez mettre personnalité. Nous sommes dans le triangle de synthèse de la vie. Le triangle de synthèse de la vie, toute vie, c'est un pôle esprit, un pôle conscience, un pôle activité ou forme. Donc vie, conscience, forme. Mais ça, c'est le triangle de synthèse. Après, le fil de vie se projette jusqu'à créer donc son lotus égoïque, pour arriver à être enfermé dans la matière, ce lotus égoïque traverse le plan monadique, bon, le plan monadique, le plan atmique, le plan bouddhique, et se retrouve sur le plan mental. À partir de là, vous avez l'unité de conscience qui est dans le lotus, donc dans le corps causal, le lotus égoïque. Mais pour traverser ces plans, il va se créer, en fait, potentiellement, des véhicules. Donc vous aurez un véhicule atmique, un véhicule bouddhique, un véhicule manasique. Puisqu'à chaque fois, mais c'est une potentialité. Au départ, c'est une potentialité. Quand l'âme, l'unité est constituée, c'est encore un lotus fermé sur lui-même, donc il n'est pas en expansion de conscience. À partir de cette unité de conscience, le travail pour descendre dans la matière va être de se projeter dans les robes de la matière, dans le non-soi, c'est-à-dire son chantier, et à partir de là, il va falloir qu'il se crée à nouveau un véhicule sur le plan mental, un véhicule sur le plan astral, un véhicule sur le plan physique. Ce que je voudrais, c'est que apparaisse bien pour vous le chantier de contrat de vie.
Quand on parle véhicule, c'est...
Un corps. Mais on va voir comment se réalisent les corps. Vous avez, je reprends, il faut que ce soit suffisamment clair. Vous avez la racine de vie de cette vie humaine, qui donc plafonne sur ce plan d'évolution. Pour remplir son contrat de vie, elle descend dans la matière, elle envoie son fil de vie. Son fil de conscience est enfermé dans les robes de la matière au niveau corps mental. À partir de là, il y a unité de conscience. Comprenons bien que les vies, au fur et à mesure qu'elles vont descendre dans la matière, les robes de la mer, l'expansion de conscience progresse. Ce qui veut dire qu'à l'entrée du règne humain, les vies en question sont divinement en potentialité, épanouies, mais faibles en conscience, pauvres en conscience. La conscience vient de l'union entre l'esprit et la matière. Or, le processus de manifestation, il n'y a pas de conscience comme on l'entend.
Question bête.
Non.
C'est à l'origine des incarnations, c'est à chaque incarnation, il va y avoir un processus.
Non, c'est-à-dire que le chantier progresse au fur et à mesure. Comment il progresse? Comment il progresse? Il progresse sur le fait que, à chaque fois qu'il y a un cycle d'incarnation, autour du lotus égoïque, on va le voir sur le dernier tableau, vous avez les banques de mémoire, qu'on appelle unité mentale pour le plan mental, qu'on appelle atome permanent astral pour le plan astral, et qu'on appelle atome permanent physique pour le plan physique. Pour parler très directement, à chaque incarnation, qu'est-ce qui se passe? L'être est remonté, dans un premier temps, au niveau de son unité de conscience, de son âme. Et cet être permanent, avant de repartir, poursuivre son chantier, la réalisation de son chantier, remonte à sa source. Là, il a un champ de vision intégral. Et par conséquent, le Père lui projette son futur. Il revient dans son unité de conscience et il va reprojeter son unité mentale, donc se recréer un corps mental pour poursuivre. Cette unité mentale, en fait, c'est sa banque de données. C'est-à-dire, quand l'être se manifeste, il se projette dans les quatre plans inférieurs du plan mental et par conséquent, il envoie sa banque de données qui émet des vibrations, qui rappelle à lui ses élèves. Idem pour recréer son monde astral. Donc l'atome permanent est projeté dans le centre du cœur, n'est-ce pas, du corps qui va être constitué, et qui rappelle à lui, voilà. Alors, pour le plan physique, et ça va mieux vous éclairer, mais c'est pareil, le couple procure un fœtus. Dans les 21 jours, l'être choisit l'option de poursuivre dans cette famille. À partir de là, il projette son atome permanent mémoire dans le centre cardiaque du fœtus. Et là va se dérouler, en fait, la constitution du corps, avec ses atouts et ses points de faiblesse.
Et les atomes permanents des parents.
Pardon ?
Et les atomes permanents des parents sont-ils soumis
Ah non, non, ils sont pas. Non, eux, ils offrent un champ d'opportunités. Mais ils ne sont pas concernés directement. Simplement, l'être reprogramme en fait sa manifestation. Par conséquent, rappelle à lui ses vies mineures. Un point capital dans la compréhension pour l'être humain du cinquième règne, c'est qu'il est une unité centrale en charge de vies mineures qui constituent ces mondes qu'on appelle ces corps. Est-ce que vous voyez bien la nuance fondamentale d'approcher la vie en manifestation ? On a tous des chantiers à gérer. Et c'est autant de vies plus jeunes dans l'évolution qui attendent qu'on les conduise à l'équilibre de leur évolution. Quand vous parlez de l'enfant, c'est vos corps. Chacun d'entre nous a un monde physique, un monde émotionnel, un monde mental à gérer, et essayer d'imaginer l'échelle d'évolution des grandes vies. Eux, ils ont des humanités à faire évoluer. Et un logos planétaire, il a des humanités à faire évoluer. Un logos solaire, il a 7 fois des humanités. Est-ce que vous comprenez ? Donc c'est vertigineux. Et l'être en question n'est pas libéré tant qu'il n'a pas rempli son contrat.
Vous pouvez nous expliquer la dissolution du corps causal, quel est le processus ?
Alors, dans l'évolution à un moment donné, le lotus égoïque est parfaitement équilibré. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, en fait, l'échange entre les deux pôles esprit-matière est harmonisé. Pourquoi lotus ? Eh bien simplement, si vous voulez, parce que l'unité centrale doit harmoniser les énergies qui viennent du père avec celles de la mère. Et donc ça va vous donner, si vous voulez, cet échange sous forme de pétale. Donc ça veut dire que dans cet échange entre les deux pôles, vous avez toujours le feu qui descend du père et l'essence qui monte de la mère. Donc, d'où le lotus. D'où en Occident, dans les églises, la rose. Lotus ou rose, c'est pareil, c'est une image pour exprimer le processus. Donc tu as le triangle de la personnalité, avec ses 3 aspects, hein, physique, émotionnel, mental, et puis le triangle de la racine de vie, mais qui concerne en fait les aspects de l'homme céleste. Eh bien, quand ces deux échanges sont en fusion, le corps causal n'a plus lieu d'être directement, puisqu'en fait, la personnalité et l'âme ont fusionné. Donc l'échange se fait directement. Alors comme les deux pôles sont équilibrés, eh bien il n'y a plus de manifestation. Sauf intention volontaire de l'unité de vie.
C'est-à-dire qu'en fait il est devenu transparent. Le lotus est complètement devenu transparent.
Oui, l'être dit je suis ce que je suis.
Qu'est-ce qui se passe au niveau des mémoires ? Donc, la dissolution.
À un moment donné, comme ta mémoire liée à ton chantier, c'est ton passif karmique. Donc ton passif karmique de toute vie, c'est ce qu'on appelle Kamamanas l'astral. Eh bien, comme c'est soldé, il n'y a plus de chantier, puisque les vies, en fait, ont pu remonter dans les courants ascensionnels. C'est pour ça, si vous voulez, que traduit autrement, vous avez ceci. Vous avez l'énergie qui descend du père et l'énergie qui remonte de la mer. Mais en fait, ça veut dire que pour une vie au stade planétaire, eh bien les cellules que nous représentons sont réalisées. Et par conséquent, la fusion entre ces deux pôles est effectuée à ce stade-là. Donc quand il aura réalisé la même chose sur 3/5, eh bien, il aura rempli, lui, son contrat de vie. Quand 3/5 des vies humaines seront entrées dans le cinquième règne, il aura rempli son contrat de vie. Et il pourra dire à celui qui est sa vie transcendante, donc un logos solaire, il pourra dire, père, j'ai rempli mon contrat. Et le logos solaire, quand il aura assumé ça au niveau de 7 schémas planétaires, il pourra dire au logos cosmique, père, j'ai rempli mon contrat. Donc il y a toujours, en fait, et c'est l'infini. Le repos est lié aux vies mineures. La fatigue, c'est lié aux vies mineures. La souffrance, c'est lié aux vies mineures. La souffrance, ce n'est pas vous en tant qu'être, c'est vos vies mineures qui disent « Non, attends, tu nous malmènes là, et tu nous sers la vie, c'est pas possible ça, on est tellement bien chez toi. » C'est ça ou c'est difficile, hein ? c'est qu'en fait, il faut comprendre que dans l'évolution, eh bien, chaque vie, et notamment dès l'instant où on est en soi-conscience, donc la vie arrivée à la soi-conscience, elle prend des chantiers de vie en évolution. Et une des choses fondamentales pour ouvrir à la compréhension des réalités de la vie, c'est de faire comprendre à l'être humain que, en fait, il est une vie centrale à bord. Et que dans le chemin de l'allée de la traversée du règne humain, il en est prisonnier. Et qui fait la volonté des désirs de ses vies mineures. Je reprends ça en vous disant, les guides qui ont quand même continué à suivre l'humanité, eh bien, Gautama Bouddha dit aux hommes, cessez le désir qui est la cause de la souffrance. Ensuite, vous avez Maitreya qui vous dit, pratiquez de justes relations. Et puis vous avez Mahomet qui dit, faites le combat sur vous-même. C'est pour vous montrer l'incitation à se libérer en fait des chantiers que nous avons. Et là, vous avez comment en fait se planifie le chantier. Ce qu'il faut retenir, si vous voulez, c'est que, et on va le voir sur le tableau, en fait, chaque banque de données, chaque atome permanent mémoire, stocke chaque vie, réintègre ce vécu à l'ensemble des vies, et quand on revient, il faut reprendre là où a été arrêté le chantier. Donc ce qu'on ne fait pas dans cette vie, eh ben, on aura à le faire dans la vie suivante. Donc on peut ne pas perdre de temps.
Quand on est arrivé au sommet.
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez donc une vie planétaire qui est arrivée, donc qui est passée par le règne humain, il y a des milliards d'années, qui aujourd'hui est en charge de faire évoluer toute la vie, toutes les vies sur son monde de manifestation, hein, qui n'est pas que terrestre. Bon. Et cette vie est intégrée dans un cycle plus grand. Mais lui, présentement, il a son cycle. Il a donc une durée de vie. On va dire, si vous voulez, que pour nous, cette réalisation se fait en 7 races. Et nous sommes dans la 5e. Donc ça veut dire qu'il a encore 2 races, donc des millions d'années, pour remplir son contrat. Et que dans tout ce cycle, des vies humaines devancent, sont la fine fleur de l'humanité et acquièrent les consciences, si vous voulez, du futur. Quand vous voyez un Bouddha, quand vous voyez un Christ, vous voyez un être qui est dans la conscience de la 6e race. C'est-à-dire ce que sera la conscience de la 6e race. Alors aujourd'hui, la conscience, c'est d'arriver, si vous voulez, à pratiquer de justes relations. C'est-à-dire, l'être humain doit se dire, je ne suis plus le centre du monde, mais je suis une unité dans un vaste ensemble. Et donc je dois apprendre, comme on dit, à avoir de bonnes relations avec mon environnement. Quand l'être atteint cela, et donc on va dire se qualifie en tant que seigneur d'amour et de sagesse, la sagesse étant l'intelligence avec les justes relations, eh bien il peut sortir du règne humain, parce qu'il a rempli son contrat dans cette vie. À partir de là, si vous voulez, eh bien il va se reposer qu'à la fin du cycle. Donc il rentre dans, entre guillemets, l'éternité. Mais bien évidemment, le moment venu, lorsque un nouveau cycle d'évolution supérieure va se faire, il va recommencer, comme on dit, l'aventure. Donc simplement, comme il est sorti, eh ben, il peut se reposer. Mais ce n'est pas forcément le cas. Parce que dès l'instant où on a intégré cette énergie de juste relation, il y a cette prise de conscience que le chantier terrestre, il n'est pas achevé.
D'où le jeu d'évolution pas.
Oui, c'est-à-dire, au lieu d'être qualifié en tant que seigneur d'amour et de sagesse, donc un bodhisattva, il va dire, je poursuis, et donc j'ai rempli mon contrat, je me suis qualifié, mais symboliquement, je tourne le dos à la maison du Père. C'est-à-dire, je ne rentre pas, parce que le chantier du Père n'est pas terminé. Et donc là, il va se qualifier pour devenir un Bouddha. Alors, Bodhisattva, c'est amour-sagesse. Bouddha, c'est les trois, c'est-à-dire intelligence, amour et volonté du Père. Vous voyez la nuance. Mais c'est pour vous montrer que, eh bien, aujourd'hui, en fait, nous sommes dans l'émergence donc de tout ce contexte de réalisation qu'on peut appeler le cinquième règne, puisqu'en fait, c'est des êtres qui ne sont plus en conscience de personnalité, mais d'être, de lumière. Non, mais quand la personne essaye, je dirais, de contourner son épreuve de santé en se faisant faire une greffe, karmiquement, elle n'a pas soldé le compte. Hein? Je vais vous le dire autrement, mais c'est pour que vous compreniez justement la pression de dérobade. L'occidental est protégé du karma dans la mesure où il n'a pas en conscience collective la loi de renaissance et la loi de karma. Ce qui n'est pas le cas de l'oriental, qui lui sait pertinemment qu'il y a la loi de renaissance et il y a la loi de karma. Mais c'est « je suis éternel, on verra la prochaine fois ». Et à ce titre, si vous voulez, ils atrophient la richesse énergétique de leur corps énergétique. D'où la nécessité, si vous voulez, de faire des exercices respiratoires et autres. Ce qui n'est pas nécessaire chez l'être occidental. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne peut pas jouer avec les lois de la vie qui sont nos lois. La chose qu'il faut intégrer, c'est que les lois naturelles de la vie sont les lois de la vie, sont donc nos lois. Donc on peut contourner, mais obstacle plus difficile la prochaine fois.
Je crois que ça dépend beaucoup justement de la motivation et tout ça. À mon avis, c'est pas... ça peut être dans un truc que je veux fuir ça, etc. Si c'est comme ça, c'est vraiment ras des pâquerettes. Mais si la personne, ça lui permet de prendre conscience, oui, je suis dans cet état-là parce que ceci, cela, mon corps maintenant, je prends la faculté de le guérir tout de suite. Et si on peut m'aider tout, et que après ça, son activité, après ça, est complètement différente de ce qu'elle avait fait avant, elle agit différemment, etc. Et que ça peut être très, justement très positif. Hein. Et en plus, ça peut être... Pour la personne qui, elle, a fait le don, ça peut être un plus, entre guillemets.
Mais c'est vraiment au risque de se perdre, parce que regarde, des personnes à qui on enlève un petit bout de colon, par exemple, toutes te le diront, et l'entourage aussi, avant, avec le colon entier, et après, c'est plus du tout la même personne. Tu ne t'adresses plus du tout à de la même manière, et réciproquement, c'est des transformations qui sont impensables pour un petit bout...
Peut-être que ça
intéresse. Dans les greffes, je ne dis pas, n'imagine pas.
Je crois que sur chaque cas est un cas particulier.
Oui, mais d'une façon générale, en fait, je dirais qu'on évoque au regard du cinquième règne, hein, si vous permettez. Et par conséquent, il y a une différence de lecture entre une conscience du cinquième et une conscience du quatrième. Quand l'être du cinquième est en conscience de son être, ce qui lui le préoccupe, c'est pas, comme on dit, d'avoir vécu longtemps, c'est d'avoir bien rempli sa vie. C'est complètement différent.
Les chirurgiens, maintenant, ils veulent absolument opérer.
Mais là...
C'est vide, pour rentabiliser.
Ah, ces fameuses machines à sous.
Une personne qui a 95 ans, qui met une épine, la porte, alors que les gens ne veulent pas forcément. J'ai connu une personne de 92 ans, elle s'est rendue compte quand il y avait une épine, elle a dit, mais moi, j'ai pas demandé ça, parce que je me suis demandé, il allait mourir, parce que les gens pensaient qu'il allait mourir.
Oui, mais là, vous avez ce que j'expliquais tout à l'heure, les scientifiques s'autorisent.
Voilà.
Ils s'autorisent.
Et la famille aussi, elle est peut-être autorisée. Il faut qu'on
je crois que c'est la famille qui a autorisé.
Il faut qu'on se passage de l'autre côté aussi. Parce que tu sais, quand on est un astronaute, c'est toute une galère pour pouvoir être enterré comme on veut. Enfin,
On va sortir un petit peu de ce monde de souffrance pour faire des projections positives. Bon, alors, qu'est-ce qui se passera lorsque les guides vont réapparaître? Eh bien, les êtres du cinquième règne vont retrouver leur faculté naturelle, c'est-à-dire de quitter consciemment leur corps, de remonter sur les plans qui les concernent, donc l'un des plans supérieurs, et puis ils vont retrouver le contact avec les êtres énergie, et ils vont retrouver les facultés de leur corps éthérique. Mais vous comprenez bien que ce retour s'accompagne de retrouvailles de la réalité de la vie, et par conséquent, le fait de faire tomber tout ce qui est illusion de tel ou tel passage au garage. C'est-à-dire
dans un cas, sur le bon plan.
J'ai expliqué sur le cinquième règne, pour le cinquième règne. Le retour du Christ a été annoncé dans les textes de Bélé, parce que je ne veux pas, comme on dit, en 2025, n'est-ce pas? Mais en l'état, on va dire que c'est un peu plus tôt.
Une question, Bernard. Lorsque ce qu'on appelle les NDE, est-ce qu'il n'y a pas une interférence entre ce cinquième plan, plus les gens rapport?
Et ce qu'il faut savoir, c'est que selon le stade d'évolution, l'être entre en contact avec tel ou tel plan. Et bien, bien souvent, en fait, c'est l'astral. Hein. C'est l'astral qui fréquente. Ah oui, c'est l'astral. C'est l'astral parce que, bon, ils ont eu un contact. Effectivement, c'est souvent leur être intérieur qui a donné ce contact. Mais un être du cinquième règne, lui, il peut très bien faire une remontée beaucoup plus haut. Mais je pense qu'il saura se taire. Il est prié de se taire.
Il est prié de se taire, ce n'est pas... Je vais dire bon parce que ça m'est arrivé. On parle, mais on ne peut faire. Sinon, on brûle l'essentiel.
Oui, puis, je dirais que communiquer des choses essentielles, il faut faire attention. Oui, le risque, effectivement, ce que tu évoques, ça va plus loin. C'est que l'être va paraître pour un fou. De parler d'une autre vie. Une phase naturelle de l'évolution. Il n'y a rien d'extraordinaire. Nous sommes dans une phase d'évolution. Puisqu'en fait, quel est le contrat de vie du logos planétaire, de l'homme céleste? C'est d'amener les vies humaines à son point de départ dans son évolution cosmique. Lui, il a ça comme contrat de vie. Il doit amener 3/5 des hommes et des devas à ce stade d'évolution. Quand il a fait ça, il a rempli son contrat. Parce que c'est un rapport d'équilibre pour l'évolution.
La masse critique.
Oui. Oui, parce que pourquoi, si vous voulez? Parce que je peux l'expliquer autrement. En fait, quand il atteint les 3/5, cela veut dire que la planète, et donc les vies humaines, hein, pour, comme on dit, ne pas trop s'étendre, seront en phase d'accomplir l'intention qui est la sienne. Pourquoi? Quel est le but, quel est le dessein auquel il participe pour créer cette planète? Donc la sacralisation de la planète. C'est-à-dire que la planète sera devenue l'expression de sa volonté, qui est bien sûr la volonté du bien de l'ensemble. Quand la planète est sacrée, cela veut dire que la volonté de son créateur est assumée par ses fils. Je répète, l'intention du Père, c'est d'établir de justes relations pour le bien de l'ensemble.
Et les 2/5 qui restent sur chaque...
Des redoublants.
Ils vont sur la Terre, par exemple.
Des redoublants. Ouais. C'est-à-dire que nous, on en a aussi. Hein.
Non, mais moi,
tu as aujourd'hui, sur la Terre, dans l'être humain, tu as tous des bons terriens, mais les êtres ne viennent pas forcément de cette Terre. Bien,
hein. Les 2/5 qui restent sur une planète qui est devenue sacrée, hein, qui eux n'étaient pas, faisaient pas partie des... Hein, ben, ils vont continuer.
Voilà, ils vont attendre qu'une planète présente un stade de progression qui leur permette, compte tenu de là où ils plafonnaient, de reprendre leur parcours. Alors la particularité, si vous voulez, de la Terre, c'est que la Lune fut un échec. Et par conséquent, ben la Terre, qui est la nouvelle incarnation du logos planétaire, la Lune étant son précédent corps, ben il reprend en fait certains lunaires.
Comment ça, la Lune fut un échec?
Elle fut un échec parce que les hommes, en fait, n'ont pas su assumer leur contrat de vie, et il y a eu toutes les vies mineures qui ont été, comme on dit, déchaînées.
Mars.
Saturne sont des planètes de souffrance parce qu'il y a épuration. Dans le système solaire, vous avez 3 planètes qui sont un peu des planètes de rattrapage, si vous voulez, c'est-à-dire dont le contexte a été pensé pour que, on va dire, les mauvais élèves apprennent par l'épreuve à comprendre les choses. La souffrance, c'est la nécessaire épreuve pour faire réfléchir.
Et alors
Vénus? Vénus est sacrée. Vénus est une planète sacrée. Alors c'est là aussi où justement Vénus, le logos planétaire de Vénus, si vous voulez, a réussi à amener ses vies à assumer son dessein, et il l'a fait en 5 rondes au lieu de 7. Et comme il est le frère aîné du logos de la Terre, l'apparente faute, hein, je dis bien l'apparente faute du logos planétaire, cache en fait une tentative pour réaliser le même processus en 5 rondes et non pas en 7. Et ce, pour rattraper, si vous voulez, l'échec de la Lune. D'où la marche forcée, éprouvante de l'humanité. Parce que le tam-tam céleste est soutenu. C'est-à-dire, si vous voulez, notre Père, hein, le logos planétaire, est arrivé en état d'indifférence divine. C'est-à-dire qu'il ne cède en rien à ses fils. Et par conséquent, vu d'en haut, je dis bien vu d'en haut, hein, des hauts plans, en fait, la Terre est aujourd'hui sacrée. Ce qui veut dire, si vous voulez, que cet être a une telle rectitude dans sa marche cosmique que la Terre, de toute façon, est obligée de se conformer à sa volonté. Avec cette nuance, c'est que ce n'est pas une volonté imposée. Le Père, ça fait 18 millions d'années qu'il attend qu'on aime ses lois, qui sont des lois de beauté, de pureté, de perfection et d'amour. N'oubliez jamais, il est en vous. Alors actuellement, un peu plus d'un cinquième est rentré dans le cinquième règne. Mais malheureusement, la matérialité de la Terre est telle que seulement un cinquième de ce cinquième s'assume. 4/5 sont pris au piège du matérialisme. Et alors ce qui est terrible, je fais la parenthèse, ils jouent dans le camp adverse. Pourquoi ? Ils ont épanoui leur personnalité. Donc ils sont très armés, si vous voulez, pour être dans le monde. Ah, la règle du jeu, c'est on accumule des biens, des richesses. Ah, mais ça, je sais faire. Et en fait, si vous voulez, ils nourrissent le processus inverse. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider à la réalisation des justes relations, eh bien, ils nourrissent le système pyramidal où 80% des biens de l'humanité sont possédés par 20% des biens de l'humanité. D'où l'émergence d'un karma pour le cinquième règne. Il y a ceux qui tiennent bon et puis voilà. Comment ? Ne dites pas ça, vous avez déjà 4% des êtres qui sont en progression du cinquième règne. On va dire, si vous voulez, que ce cinquième règne, il a deux parties. La première partie, c'est les hommes de bonne volonté, appellation il y a 2000 ans pour désigner le cinquième règne, qui donc sont en réalisation de justes relations. Je ne fais pas autrui, hein, ce que je n'aurais pas. Bon. À partir de là, si vous voulez, à la moitié du cinquième règne, ils ont cette qualification. Et puis, ils réalisent que derrière ce comportement, qui donc leur a permis de maîtriser à la fois l'énergie d'intelligence, l'énergie d'amour, de juste relation, ils réalisent que, en fait, celui qui donne la vie à la planète appréhende une énergie spécifique qui est l'énergie de volonté divine. Et par conséquent, ils se disent, eh bien, à nous de tendre vers cette identification avec celui qui donne la vie à la planète et dont le point de contact est notre racine de vie. Ça veut dire quoi, si vous voulez ? Ça veut dire que l'être a trois aspects. Personnalité, donc non-soi, son chantier, son unité de conscience et sa racine de vie. La personnalité, il apprend à gérer l'énergie d'intelligence. En tant qu'être, il apprend à pratiquer de justes relations, donc l'énergie d'amour-sagesse. Et puis, il réalise que, en fait, il est une parcelle du Père. Et donc, il tend vers cette identification. Et cette identification, il va l'appréhender en tant que volonté du bien de l'ensemble. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, les êtres qui rentrent dans cette prise de conscience et cette réalisation, eh bien, sont en train de progresser vers ce qu'on appelle la maison du Père et par conséquent s'identifier à lui. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a 2000 ans, Maitreya, si vous voulez, dans ses 3 ans, un dit pratiquer de justes relations, d'accord ? Et que la volonté du Père soit faite. Il est le premier de notre humanité à avoir saisi cette dimension. Alors bien évidemment, dans l'humanité d'une façon générale, ça fait des milliers d'années que l'homme appréhende l'énergie d'intelligence. Il n'a pas encore saisi que la véritable dimension de l'intelligence, c'est l'intelligence du cœur. Ça fait 2000 ans qu'il est invité à pratiquer de justes relations et donc à appréhender l'énergie d'amour-sagesse. Hein, l'amour, c'est pas un sentiment, hein. C'est si vous voulez, dans sa dimension cosmique, la loi d'attraction et de répulsion. C'est ce qui positionne les atomes de toute dimension, si vous voulez, micro ou macro, dans une harmonie universelle. Et peu sont en train de ressentir la volonté de bien de l'ensemble qui est la caractéristique du Père. Voilà le cheminement. Donc quand quelqu'un progresse, saisit, assume, sert, il est dedans. C'est pas plus compliqué, si vous voulez, à la compréhension. À l'application, c'est autre chose. Mais à la compréhension, c'est pas compliqué. Hein, simplement, au même titre que chacun de nous, nous pulvérisons notre vie pour nos vies mineures, le Père fait pareil. Son chantier, il a pulvérisé sa vie pour toutes les vies qui constituent sa manifestation. Donc, si vous voulez, il faut simplement saisir que quand vous voyez le minéral, et ben vous voyez la vie, la vague de vie du Père qui traverse le minéral. Même chose pour le végétal, ce qui veut dire, si vous voulez, que le regard, c'est de dire, quand je vois un végétal, et bien, la vie du Père est au sein de la mer.
Quand nous sommes amenés à vivre, à discuter avec des animaux, les chats, les chiens, les poissons, est-ce que ces protéines permettent l'évolution de ces animaux?
Nous découvrirons que l'âme du minéral est sur le plan physique, que l'âme du végétal est sur le plan astral, que l'âme du minéral est sur le plan mental, et que notre rayonnement d'énergie positive impressionne ce règne. Vous avez là l'explication pourquoi les animaux ont été sauvages et féroces, parce qu'ils ont été contaminés par le mental, les pollutions du mental humain, et à l'inverse, il est dit, un jour, le loup dormira avec l'agneau, parce que l'homme ne polluant plus les règnes inférieurs dont il a la charge, mais qui pour l'instant il ne sait pas, n'est-ce pas, eh bien, il ne sera plus à déverser ses pollutions sur les règnes de la nature.
Ce qui fait que certains animaux disparaissent.
Ah, ça c'est les formes.
Oui.
Attention, il faut regarder de la vie, donc d'en haut vers en bas, et pas la forme. Vous comprenez bien que la vie qui traverse le règne humain, à un moment donné, les dinosaures n'étaient plus des véhicules adaptés pour l'évolution, donc ils avaient à disparaître. Hein, si vous voulez s'acharner à vouloir, il s'agit, on se comprend bien, il ne s'agit pas d'interrompre la traversée de la vie, n'est-ce pas, dans son règne. Mais à l'inverse, il ne s'agit pas non plus de retenir délibérément, si vous voulez, des formes qui bloquent la vie alors qu'elle n'a plus besoin de ces formes-là. Là, il y a un juste milieu, un juste équilibre, si vous voulez. On peut le rapprocher plus simplement aux excès et notamment à l'acharnement, à vouloir retenir un être humain dans une forme qui, en fait, indique qu'elle ne peut plus assumer. Donc la vie est superbement faite, si vous voulez. L'être est éternel. Sa manifestation, quand le véhicule est usé, si vous voulez, on en change, la mort est nécessaire, puisque en fait, la mort, elle libère la vie de son chantier, de sa prison. La mort est une illusion, elle est tout à fait nécessaire. La mort est une grande libératrice parce qu'elle libère la vie de son chantier. Elle est nécessaire, imaginez si on était tous avec un véhicule depuis le départ.
Mais là, ce sont des espèces entières qui disparaissent.
Oui. Oui, et alors, c'est des véhicules, c'est pas la vie est éternelle. Celui qui donne la vie à la planète déroule, si vous voulez, ces vagues de vie à travers les sept règnes de la nature. Donc ça veut dire que l'aspect forme, mère, adapte, si vous voulez, les véhicules en fonction du progrès. Je ne vais pas vous choquer si je vous dis que lorsque l'homme animal est rentré dans le règne humain il y a 18 millions d'années, vous imaginez, le lupanax eût été avec des véhicules d'aujourd'hui. Donc la vie, en fait, si vous voulez, l'aspect mère, forme, eh bien, c'est les devas, n'est-ce pas, elle fournit le véhicule en conséquence. Et donc progressivement. Bon, on va prendre le diagramme 8 si vous voulez. Donc nous sommes sur le même plan d'évolution que ce tableau-là, c'est-à-dire le plan physique cosmique. Donc nous retrouvons notre racine de vie sur le deuxième sous-plan, le plan monadique. Alors ce que vous pouvez faire, c'est remettre à nouveau, si vous voulez, le point central de la racine de vie, sur le troisième sous-plan. Enfin là, il faudrait le mettre sur le deuxième parce que le lotus égoïque est épanoui. Là, vous avez un schéma lié au cinquième, à un être du cinquième règne. Vous avez donc la racine de vie avec ses trois aspects. Volonté, sagesse, intelligence active, c'est la racine de vie, qui se projetant dans les robes de la mer, donc dans les plans, eh bien, va se créer trois atomes atmiques, bouddhiques, manasiques. Alors, il faut savoir que sur le chemin de l'aller, ces atomes, en fait, sont latents. Comme vous avez les trois aspects, vous avez obligatoirement, si vous voulez, trois véhicules, donc trois atomes qui vont s'exprimer au niveau de ces aspects-là. Alors vous voyez que sur le plan mental, vous avez le lotus égoïque qui est épanoui, à savoir, mais ça on le verra si vous voulez d'un truc comme ça, vous avez le corps causal qui est donc le cercle qui enveloppe le lotus, la sphère qui enveloppe le lotus, vous avez ensuite trois pétales liés à l'aspect intelligence, trois pétales liés à l'aspect amour, trois pétales liés à l'aspect volonté. Et vous avez ce qui entoure le joyau du lotus, vous avez trois pétales spécifiques, l'un correspondant à l'aspect volonté, l'autre à l'aspect amour, l'autre à l'aspect sagesse. Alors il faut savoir simplement qu'on est en triple triplicité et que par conséquent, le cercle des pétales, on reviendra dessus, mais c'est pour vous donner une explication. Vous voyez, c'est répertorié, pétale de connaissance, pétale d'amour, pétale du sacrifice. Mais comme c'est une triple triplicité, le cercle extérieur, c'est le cercle d'intelligence, mais vous aurez un pétale intelligence-intelligence, vous aurez un pétale intelligence-amour et vous aurez un pétale intelligence-volonté. Le cercle médian, c'est le cercle de l'amour, vous aurez amour-amour, vous aurez amour-intelligence et vous aurez amour-volonté. Et ensuite le cercle volonté, vous aurez volonté-volonté, volonté-amour et volonté-intelligence. C'est pour vous montrer qu'en fait, il doit y avoir, il joue ce rôle d'intermédiaire entre le pôle esprit et le pôle matière, donc entre le non-soi et le soi. Que représente le pôle esprit, je vous le rappelle, eh bien en fait le pôle esprit représente cet être transcendant dans lequel nous sommes. Quand nous avons, nous, effectué notre chantier, c'est-à-dire harmoniser à l'équilibre les deux pôles, eh bien cette unité de conscience en fait symboliquement disparaît. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous voulez, que l'être a perdu son individualité de conscience. Il est devenu universel. Alors ne pensez pas un instant, comme on dit, qu'il ne sait plus s'exprimer. Simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il pense du haut vers le bas et non pas du bas vers le haut. Ce qui veut dire qu'il a parfaitement intégré le bien de l'ensemble et que sa préoccupation, c'est d'abord de voir l'ensemble et non pas la partie. Donc en fait, la disparition, si vous voulez, du corps causal, elle résulte de ça. L'être est universel. Mais il faut savoir que c'est le chantier qu'attend l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est la conscience de groupe qui doit aboutir à l'individu universel. Donc en fait, son champ de conscience est universel. Alors, pour unir la matière et la faire monter, donc prendre les vies mineures en charge, si vous voulez, eh bien vous avez donc les trois atomes permanents, dont l'unité mentale, l'atome permanent mental s'appelle l'unité mentale. Et donc c'est les banques de données. Alors chaque corps va en fait, sur le plan aspect énergétique, déployer les concordances avec les plans subtils. Ça veut dire, si vous voulez, que le corps éthérique, eh bien aura sept centres principaux, qui sont les liaisons avec les corps subtils. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur le chemin de l'aller, l'être a édifié son corps physique, son corps émotionnel, son corps mental. C'est sa personnalité. Bon, ensuite, cette personnalité, il va l'harmoniser avec son être permanent, son être intérieur, d'où la notion de juste relation. Et après, il se doit de remonter, de rejoindre le Père, c'est-à-dire d'atteindre le champ de conscience du Père. Mais pour ce faire, il faut qu'il appréhende ses aspects supérieurs.
Alors, ce que vous pouvez noter, c'est que ici, ce plan monadique, c'est l'âme de l'homme céleste. Le plan atmique, c'est le plan mental de l'homme céleste. Le plan bouddhique, c'est le plan astral, c'est le corps astral de l'homme céleste. Le plan manasique, c'est le contact avec cette partie inférieure. Bon, ce qui veut dire que il doit appréhender la nature des énergies qui constituent le corps astral, le corps mental et l'âme de l'homme céleste. Donc il a des corps potentiels qu'on appelle le corps manasique, le corps bouddhique, le corps atmique, et qu'il va falloir édifier comme il a édifié ses corps inférieurs. Pour parler clairement, chacun de vous actuellement a dans cette édification de ses véhicules supérieurs et subtils un chantier en réalisation. Et par conséquent, les difficultés que vous pourriez normalement éprouver à la compréhension de ce qui est expliqué, il y a deux hypothèses, ou celui qui vous parle ne maîtrise pas son sujet, ou vos corps ont besoin encore d'être affinés. Et c'est ce qui explique, si vous voulez, les difficultés, les blancs de compréhension. Parce que votre corps physique, eh bien, au même titre que si vous voulez quelqu'un sur l'allée, il n'a pas encore stabilisé son corps émotionnel et il s'agite dans tous les sens. Donc voilà, l'invitation, c'est au niveau du plan de l'intuition, c'est que ce plan bouddhique, si vous voulez, se superpose au corps émotionnel. En d'autres termes, il faut que l'être cesse de s'agiter émotionnellement, mais use des justes relations. Donc tant que dans votre vécu, vous ne serez pas là en instinct spirituel, puisqu'on est à l'amour, l'amour c'est le spirituel, tant que vous ne serez pas à instinctivement faire à l'autre ce que vous aimeriez que l'autre vous fasse. C'est ça quand le Christ vous dit « tendez l'autre joue ». Quand vous aurez à vous identifier avec la volonté du Père, eh bien cela implique, si vous voulez, d'être séparé de l'individualité. Donc de ne plus réagir en vous regardant comme centre du... Alors tant que ces choses-là ne fonctionnent pas en instinct, eh bien, ça veut dire que vos corps concernés ne sont pas encore pleinement stabilisés, équilibrés et épanouis. Quand vous allez rentrer en conscience monadique, donc l'âme du Père, cela voudra dire que votre instinct de conscience sera l'autre est une partie de moi-même et vice-versa. C'est pour vous montrer, si vous voulez, les champs de conscience qui sont en évolution. Fiat Lux. Nos réunions, eh ben, c'est pour, comme on dit, vous faire faire de la gymnastique subtile. C'est pour entraîner vos corps subtils à se développer. Et ça n'est jamais qu'un programme qui est devant chaque être humain. Il ne peut pas sortir du règne humain tant qu'il n'a pas rempli ce contrat de vie.